France Culture.
Oui, allô?
Oui, Volmir, c'est Marie. On est en bas.
Oui, Marie.
D'accord. On est devant un digicode, là, et on a essayé d'appeler la gardienne, mais ça répond pas.
Au 5, vous êtes bien au 5, c'est ça?
Ah non, on est au 40. Ah.
Alors, France Culture.
On vous voit, monsieur Cordero.
Le Book Club.
Ouais. Ça fait un mois que j'ai déménagé, donc je sais même pas où j'habite encore.
Merci de nous accueillir chez vous.
Dans la bibliothèque de Volmir Cordero.
Oh waouh, c'est la télé?
Oh, wow.
C'est la radio?
Oh.
Non,
non.
Vous voulez dire quelque chose? Un bonjour?
Une chanson? Oh, une chanson.
Des chants
de son à l'intérieur.
Sounds very cool. I hope so.
I also hope so for you too.
Yes, okay, great.
Enjoy your
Thanks.
Enjoy.
Marie Richeux.
Tout a commencé par une mauvaise adresse et quand nous avons enfin poussé la bonne porte, on a trouvé un jardin. Il y avait là des femmes assises à fumer, parlaient en anglais et espagnol. Leur voix continuerait de se superposer au loin à notre conversation. Tout là-dedans est opportun pour commencer à vous parler de Volmir Cordero et de son travail. Il est danseur, chorégraphe, chercheur, né au Brésil à la fin des années 80, arrivé à Angers en 2010 pour étudier la danse. Son parcours se déploie ensuite à l'international. Une adresse floue, incertaine, des voix multiples, un jardin qui donne presque sur le trottoir. Le décor est éloquent. Volmir Cordero a déployé sa recherche chorégraphique en même temps qu'une recherche théorique profonde qui l'a mené à soutenir une thèse et enseigner maintenant. On se souvient de ses costumes aux couches multiples, autant de couleurs, autant de visages, autant d'identités, même si ce mot est trop fixe, trop solide pour ce qu'il cherche dans le mouvement. L'invitation que nous lui faisons de déballer sa bibliothèque alors qu'il vient juste d'emménager dans ce petit appartement à Paris, lui donne l'occasion de raconter combien les livres ont compté dans son émancipation d'un milieu qu'il voulait fuir, qui lui faisait honte, mais aussi comme ces livres sont devenus un trait d'union pour y revenir, repenser à son enfance et son parcours avec d'autres outils. Volmir Cordero parle d'eux comme d'outils de connaissance de soi. Il le fait avec une précision salutaire et généreuse. On l'écoute.
Un petit peu changé de couleur.
Oh là là. Alors, l'idée étant de ne pas tellement parler des chaussures, malgré ma passion, mais de parler des livres.
Des livres, yes.
Et donc, dans votre maison, Volmir Cordero, où sont les livres? Ben là, tout de suite.
Ah, voilà, j'ai une grande pièce comme ça, grande. J'ai une seule pièce, quoi. Donc, ça fait que mes livres sont là.
Au-dessus du bureau.
Au-dessus du bureau, c'est ça. Et ouais, ils sont là, comme ça. Ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour pouvoir les... Pour pouvoir les voir, en fait. C'est là, quand j'ai dit que j'étais dans un autre appartement où ça ne me convenait pas très bien, c'était justement parce que je ne pouvais pas regarder mes livres. Et je pense que je ne peux pas vivre sans pouvoir les voir, sans pouvoir avoir accès et pouvoir les toucher, pouvoir les ranger autrement, pouvoir les retirer pour les créations ou pour mes cours, de sentir qu'ils sont aussi mobiles, quoi.
Donc vous êtes arrivé ici il y a quelques semaines dans cet appartement et c'est une des premières choses que vous avez installées, des livres.
Ah ben c'est la seule chose que j'ai installée, le reste j'ai rien bougé, j'ai rien changé, vous voyez les chaises sont pas très appropriables, la table non plus, le matelas me convient à moitié, mais les livres il fallait vraiment faire une place parce que sinon je peux pas continuer quoi. Et donc c'est vrai, j'ai rangé comme ça et puis j'ai réalisé qu'il manque encore de la place sans doute. Donc j'ai des éparpillés un peu par là, j'ai fait des piles un peu.
Oui, c'est vrai qu'il y a des piles, il y a quand même presque un peu des expositions. C'est marrant que vous disiez j'ai besoin de les voir, ouais. Parce que là juste devant moi c'est presque une installation et c'est pas parce qu'on vient, c'est
non.
Comme ça.
Non, c'est comme ça, ça c'est comme ça, ouais, c'est pas parce que vous venez, non. Sinon j'aurais fait mieux, tu vois, vous voyez. Finalement, non, c'est parce que là, c'est plutôt des livres qui peuvent, quand je me sens dans un état de création plus marquant, comme c'est le cas là, dans une pièce, j'ai besoin toujours de me rappeler de la place de l'image, qui n'est pas une chose que je fréquente beaucoup.
L'image.
L'image.
Ouais.
Donc là, c'est plutôt les livres où je peux visiter les images, ou alors la poésie, ou des livres qui vont être plus imagés, qui vont me donner la possibilité de plonger dans l'image, pour voir la dimension chorégraphique, alors que souvent c'est le mot, les mots, les phrases qui vont plus...
Et donc là-haut, par exemple, dans les bibliothèques que vous venez d'installer, c'est davantage des textes théoriques, c'est quoi?
Alors ici, j'ai priorisé plutôt ce que vient de la danse, de la performance, du discours sur le corps. Et puis là-haut, je mélange un petit peu entre... C'est la suite de ça, disons, qui est plutôt la partie sociologie, philosophie, anthropologie... Un petit peu de poésie, mais beaucoup plus des discussions sur la sociologie, je pense, des traités, des essais sur l'art, oui. Voilà, Didier Berman, il y en a pas mal. J'aime beaucoup Donna Haraway. Mais après, ça continue par là avec la littérature ou le débat sur la littérature avec un peu plus de poésie encore. Mais voilà, j'ai pas énormément de choses forcément sur la danse. C'est beaucoup plus, j'ai réalisé qu'il y a des choses liées à la société, quoi. Là, par contre, j'ai pas du tout sélectionné hein, ces choses que j'ai enlevées des sacs comme ça et je les mettais un peu de manière complètement aléatoire pour faire des piles, en fait, pour pouvoir...
Les piles, vous les organisez, ça fait quelque chose. Par exemple, le fait là de mélanger, je sais pas, je peux dire les titres.
Bien sûr.
L'espace humain de Robert Antelme qui fréquente juste à côté un essai. Qu'est-ce que l'esthétique est juste en dessous. Journal d'un génie Salvatore Dali est juste en dessous les métamorphoses d'Ovide. Bah, c'est une sacrée pile.
Ça, c'est une sacrée pile qui condense des temps très différents ma vie en France, on va dire. Et c'est absolument aléatoire. Celles-là, c'est des piles que j'ai montées aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, il faut quand même que j'enlève certaines pour pouvoir...
Il y en a là aussi, ouais. Il y en a de part et d'autre du canapé. C'est marrant en même temps ce que ça crée.
Ouais. Là, entre... qu'est-ce que c'est que le lieu de parole? Ça, c'est la version portugaise de Jamila Ribeiro, une philosophe brésilienne, avec Alain Guiraudy, C'est commence la nuit. Et puis Discours, figure, c'est un livre que je n'ai jamais pu lire, de Lyotard. Mais qui est là et que j'ai toujours du mal à m'en débarrasser, mais qu'on va trouver très vite, Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé César. Ou alors Borges, Aimé César encore avec le discours sur le colonialisme. Ouais.
Il y a quand même une majorité de livres en langue française?
Oui. Oui, j'ai dit, ouais, il y a une. J'ai ma bibliothèque, on va dire, au Brésil, avec une majorité des livres en brésilien. Mais là, oui, c'est majoritairement des livres en français.
Et alors, sans indiscrétion, c'est quoi cette bibliothèque au Brésil? C'est-à-dire, c'est un lieu de vie au Brésil aussi?
C'est la bibliothèque qu'il y a chez mes parents. Ouais. Quand je viens là-bas, je sais que j'ai mes livres de là-bas, que j'ai pas amené énormément de livres d'ici, que ça me permet d'être accompagné par des livres. Je pense que j'ai besoin. C'est une vraie compagnie. C'est vrai que j'ai essayé d'arrêter d'acheter parce que je ne sais jamais comment ça va se passer, la vie à venir, où est-ce que je déménage. Quand je déménage, d'ailleurs, c'est que les livres et les quelques vêtements. C'est vraiment pas beaucoup de vêtements, donc c'est plutôt les livres. Mm-hmm. Donc, en gros, mes déménagements vont dans un petit camion tout petit. C'est les livres, c'est pratique. Et parfois, je me dis, waouh, comment je vais organiser cet attachement. Si jamais, à un moment donné, j'ai décidé de changer de pays, est-ce que je vais réussir à m'en débarrasser, à faire un don, à passer à quelqu'un d'autre ou à juste les oublier? Parce que j'ai l'impression que je dépends de ces livres et que j'ai les oublis.
Ah oui.
Ouais.
C'est très fort quand même, parce que même vous en parlez en termes d'attachement, c'est la première fois que j'entends ce mot-là, je crois.
Je me sens attachée au sens où, où parfois j'oublie ce que je lis. Ça disparaît et que ça n'empêche pas que ça a été constitutif, que ça a été déterminant. Et justement, du fait de croire que je les oublie ou que je vais les rater ou que je vais passer à côté, il faut que je puisse avoir la possibilité de revenir. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient quand même exposés et proches de l'endroit où je travaille.
Vous les consultez beaucoup ?
Je les consulte beaucoup selon les demandes, on va dire, selon comment... La vie, la création, l'enseignement, tout ce que je pratique, en fait, comment je décide d'être dans mon travail, m'incite à les visiter. Là, par exemple, l'exercice, il était assez drôle et difficile à la fois parce que j'étais pas vraiment ici, que la bibliothèque était pas complètement conçue et qu'il fallait que je plonge dans ces 5 livres. Et depuis 3 jours, j'étais là en mode, oh, est-ce que j'ai bien choisi et tout? Et après, je pense que j'ai bien choisi. Je pense que je choisis selon un principe, un critère. Finalement, peut-être au moment où j'ai fait le choix, un petit peu encore inconscient, un petit peu involontaire, mais qui s'est concrétisé au fur et à mesure pendant que je préparais un petit peu pourquoi
vous,
le...
Vous avez grandi dans une famille où on lisait, où il y avait des livres?
Alors, j'ai grandi dans une famille où mes parents, on va dire, ils savent à peine écrire leur nom. Donc, il y avait quelques livres, c'était les livres, je ne sais pas comment on appelle ça, les livres pédagogiques, les livres un peu de l'école, où mes frères et sœurs qui ont 12 et 14 ans de plus que moi s'en servaient pour aller à l'école. Donc, je m'en servais surtout de ces livres de mes frères et sœurs. Donc, en fait, il n'y avait pas une bibliothèque chez moi. Il y avait cette dizaine de livres utilisée par, mon frère et ma sœur. Donc non, en fait, je viens d'un milieu qui n'a pas connu, on va dire, l'école, l'université. Ma sœur, c'était la première à aller faire des études en psychologie. Mais mon père, mon frère, mon grand-père, tous camionneurs. Et ma mère au foyer avec les enfants et sinon un petit peu dans la campagne, dans l'agriculture.
Et alors, qu'est-ce qui vous fait vous attacher, je reprends votre mot, Volmir Cordero, au livre? C'est quoi la porte d'entrée?
Je pense que la première chose, c'était une manière d'échapper justement à ce milieu-là, comme une manière de dire, si j'ai étudié, si je lis, si j'écris, si je me dédie à la formation, je trouve peut-être une manière de fuir cet espace dans lequel je ne voulais plus exister. Et après, il y avait sans doute aussi la menace du service militaire qui traînait un petit peu, une chose que j'ai craignée énormément. Et à un moment donné, il y avait cette histoire, si j'allais bien à l'école, si j'étais à la fac à l'âge de 17 ans, et surtout donc la fac publique, plus difficile à rentrer au Brésil, et là où voilà, on ne paye pas, on pourrait peut-être échapper au service militaire. Donc, aller vers les livres, c'était une manière non seulement de fuir un milieu qui ne me convenait pas, auquel j'avais vraiment la honte, on va dire, mais aussi le fait d'échapper à ce dispositif quoi, du service militaire qui ne pouvait pas exister. Ça, on va dire, dans des conditions d'ordre social.
Ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez mentionné le fait qu'il y avait votre bibliothèque maintenant chez vos parents? Est-ce que le fait que maintenant, dans cette maison dont vous vous êtes éloigné, pour toutes les raisons que vous avez expliquées, et qui était une maison où il n'y avait pas beaucoup de livres et où la fréquentation des livres, ce n'était pas une habitude. Le fait qu'il y ait maintenant vos livres à vous, est-ce que ça bouge cette maison? Est-ce que ça change votre rapport à cet endroit?
Oui, ça bouge. C'est sûr que ça permet de retourner à cet endroit familier et en même temps complètement étrange, de plus en plus étrange aussi du fait de cet écart qui se prolonge maintenant. Parce que j'ai quitté cette maison quand j'avais 17 ans. Maintenant, j'ai 38 ans et je rentre à chaque année. Et je pense que le fait de savoir qu'il y a ma bibliothèque là-bas, ça permet de créer un chez-soi à l'intérieur d'un chez-soi étrange. Et ce chez-soi, c'est vraiment la possibilité de pouvoir me fortifier à l'intérieur d'un endroit où les forces, disons, un peu écrasantes parfois, ou difficiles, ou rien que la réactivation des mémoires difficiles de se passer, peuvent être contestées par le fait d'avoir des livres.
Ah, c'est très clair. Ouais. Non, c'est très clair et c'est très fort même d'ailleurs. Il y a quoi dans cette bibliothèque là-bas?
Là-bas, il y a beaucoup des livres de théâtre parce que j'ai commencé la fac en faisant des études en théâtre. Donc il y a beaucoup des livres, beaucoup de la littérature brésilienne aussi. Il y a tous les livres de Clarice Lispector, de Machado de Assis. Il y a des livres d'Eleutisica. Il y a tous les livres aussi que j'ai récoltés de la littérature enfante, comment on dit ça, de l'enfance, quoi. Mm-hmm. De ces moments aussi, donc elle est très diverse, elle est beaucoup plus diverse que celle-ci. Elle ramasse un autre moment, de temps en temps, j'essaie de faire venir deux ou trois livres de là-bas, comme si je mettais dans la valise, comme si j'essayais de manière un peu mineure, une sorte de geste, de transposer cette bibliothèque. Mais dans l'idée du poids, j'ai droit à 23 kilos. Donc il faut aller doucement. En plus, j'achète des livres quand j'arrive au Brésil aussi. De toute façon, la littérature qui sort en ce moment.
Vous lisez indistinctement la langue française, la langue brésilienne, la langue anglaise. Tout ça, vous circulez facilement?
Oui, je circule facilement. C'est vrai que parfois l'anglais, c'est un peu plus difficile, mais ça va. Alors, le français, mais comme le portugais, il faut des fois m'arrêter, sans doute. Il faut aller chercher un mot, il faut aller chercher quelque chose, des expressions, bien sûr. Mais, je vais dire, ça m'embête pas. Ça va bien, j'aime beaucoup. En tout cas, je me pose pas la question de... Ouais. Mais quand je suis arrivé ici, c'était hors de question de lire quoi que ce soit en portugais, comme c'était hors de question de parler en portugais. J'avais ce désir d'intégration, et donc lire en français, c'était vraiment la manière d'apprendre la langue aussi. Et d'ailleurs... Voilà un petit regret de ne pas avoir choisi cet extrait, mais la poétique de la danse contemporaine de Laurence Loupe, qui doit être par là. Ça, c'était vraiment mon premier livre quand j'étais à Angers et que j'arrivais à Angers. Et j'ai l'étudié, en fait. J'ai pris, je pense, 2 ans à le lire parce que non seulement était donc là, on va dire, le traité de la danse contemporaine. Donc, il fallait m'arrêter sur chaque mot, sur chaque phrase, aller chercher les artistes qui ont été cités parce que...
Il y a un cœur.
Il y a plein de cœurs.
Ah oui, il y a un cœur, page 170.
Ouais, le fait que le corps soit en représentation, donc en situation de retour symbolique par rapport au corps social, ne fait qu'aggraver la transgression.
Bon, je sais pas, c'est une sorte de phrase par rapport à tout ce que vous venez de dire. Volmir Cordero, c'est drôle quand même.
C'est l'oracle. Des fois, j'utilise beaucoup les livres comme des oracles. On ouvre et on trouve on pose une pensée.
Ça ramasse tout ce que vous venez de dire.
Et ça ramasse, j'ai mis un cœur en plus. Genre... Ouais.
Donc, ça, important. Lecture théorique importante lorsque vous arrivez pour étudier la danse à Angers.
C'est ça. Et c'était à la fois un livre où j'apprenais la danse en apprenant le français. Mmh. Et donc, j'appris aussi à penser la danse ou à parler la danse à partir aussi de ce que je comprenais de la langue française. Mmh. Mmh. Comment Laurence Lopo, quelque part, qui n'est pas un français très facile, je trouve, mais vraiment très riche, quoi, très... qui m'a appris à penser, qui a appris aussi comment parler de mon travail. C'est très difficile pour moi parfois de parler de mon travail en brésilien aussi. En tout cas, j'ai pas nommé la difficulté comme une chose péjorative. Je veux juste nommer le fait qu'il y a des insertions dans des milieux qui font qu'on organise nos rapports au langage. Mmh. Et ce langage, dans un certain rapport au travail, un certain rapport au désir, fait que parfois, passer d'une langue à l'autre engage un effort supplémentaire. Mmh. Et quand des fois, je ne réalise pas la fatigue que je peux avoir du fait de parler tout le temps en français et que j'oublie le fait qu'on est dans cette langue-là.
Est-ce que vous pensez, en vous écoutant le préciser comme ça, est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes, parce que vous dites que ce n'est pas facile, mais vous êtes plutôt connu pour être un danseur et un chorégraphe qui a une pensée de son travail, très élaborée, très justement dans le langage. Est-ce que le fait d'avoir appris à danser et à parler français, ça pourrait expliquer ça ? Ou c'est juste vous et c'est comme ça que vous...
Je pense qu'il y a plusieurs manières, c'est-à-dire que ce désir d'aller à l'université que j'avais pour aussi fuir mon milieu social et échapper un peu à la destinée de ce que mon père voulait que je sois, m'a fait comprendre qu'il fallait étudier. Sauf que j'ai décidé d'étudier l'art et la danse. Donc déjà par là, il y avait ce rapport très fort à théoriser la pratique ou voir comment on la pratique elle-même, créer ses propres théories. Donc déjà ça, c'était, je pense, une invitation très forte que je me suis faite moi-même, ouais, dans le désir de pouvoir nourrir et associer le plaisir du plateau, de la scène, de l'adresse au public, aussi au plaisir de comprendre ce que je fais de manière inconsciente, involontaire, de choix qu'on pose tout le temps. Donc aussi plonger dans l'inconscient. Je pense que j'aime beaucoup l'idée de la part d'inconscient qu'il y a dans ce qu'on fait, dans la danse. Et c'est pour ça que le rapport à la littérature, à la philosophie, à la sociologie, à la réflexion sur ce que je fais m'est très importante. Après, il y a un vrai désir de survie aussi dans un autre pays, dans le sens de... Mmh. Pour moi, la France, j'avais pas beaucoup de fantasmes, j'avais pas beaucoup de connaissances avant de venir en France. Mais il y a une chose que j'ai compris. Il y a une chose que je ressens, en tout cas, de la vie en France, qui doit passer par le langage. Mmh. Le langage, il est primordial et cette tension entre parfois mal placer un mot ou... On vit tout le temps ça quand on est étranger, on est en train de chercher à s'adapter dans une autre langue. Ces micro-écarts au décalage qui peuvent générer des étonnements. Tous ces espaces, ces airs, on va dire, qui constituent aussi le champ invisible du langage, font que s'attacher au langage, c'est aussi une manière de pouvoir réaliser mon travail. Et donc, il y a un goût, mais ce goût, parfois, il est traité aussi dans le désir d'intégrer ou de rendre plus explicite mon travail. Parce que je ne sais pas le combien mon travail, il peut être lu seulement en tant que mon travail. Mmh. Et quelle place du langage pour aussi...
Médiatiser
ou comprendre le travail. Et ça rejoint aussi ma casquette pédagogique, mon désir aussi vers l'enseignement ou comment j'ai transmis la danse et la place du langage dans la manière de parler des œuvres ou de ressentir des pratiques.
On file vers vos 5 choix. On se met là pour ou sur le canapé. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est le mieux ?
I'm
dans la bibliothèque de Volmir Cordero. Marie Richeux.
Donc c'est le deuxième temps de cette visite de bibliothèque Volmir Cordero. Et on vous a demandé, comme à chacun de nos invités, de choisir 5 livres. On appelle ça les livres étapes et nos invités décident de ce qu'ils en font, de cette invitation. Est-ce que vous voulez dire un mot? Comment vous avez interprété notre invitation? Qu'est-ce qui vous a guidé?
Un mot préliminaire, je pense que c'était... Je pense que ça passe par le livre, ce que je rencontre dans les livres, dans son choix formel et dans les événements qu'il raconte, ce que je retrouve comme une activité de subjectivation ou d'auto-subjectivation.
C'est-à-dire? Vous pouvez dire ce que ça veut dire?
C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, à partir d'un événement ou à partir d'une situation, d'un retour dans une ville ou d'écrire dans un autre pays, on peut mettre en place un processus de connaissance de soi. Mm-hmm. Autre chose, c'est que dans ces livres, j'entends aussi une polyphonie, un désir d'une parole plurielle, multiple, ou d'une certaine manière... Ces auteurs, autrices, cherchent à faire appel à d'autres autrices, d'autres penseurs, penseuses, pour pouvoir constituer l'endroit du soi.
Je ne sais pas si vous avez un ordre.
Alors,
est-ce qu'on commence par quelque chose en particulier?
Oui.
Ouais.
Alors, j'aimerais bien commencer par Didier Ribon, Retour à Reims, qui commence lui-même par Édouard Louis, dans son prologue, parce que j'ai hésité vraiment à choisir qui a tué mon père d'Édouard Louis, comme je pourrais aussi aller vers Annie Arnaud, Laplace et autres, mais je me suis dit Retour à Reims, c'est quand même quelque chose qui m'a bouleversé le moment où j'ai lu.
C'est un texte qui paraît en 2009, qui est un texte important de la sociologie contemporaine, Volmir Cordero. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous le découvrez?
Alors, souvent je note 2022, un peu tardivement quand même. Bon, bah... Ouais, mais c'est vrai que j'ai passé à côté, en fait. Ce qui m'a plus frappé, c'était le temps. Comment ce livre, il m'a fait comprendre le temps que j'ai pris pour pouvoir plonger dans mon histoire, mm-hmm. pour faire une place à cette autobiographie que j'ai toujours renoncée d'une certaine manière, mm-hmm. ou qu'elle était pratiquée, y exposée de manière souterraine, parfois très elliptique, même dans...
Dans la danse, vous voulez dire?
Déjà.
Ou dans votre discours?
Déjà, dans ma danse, sans doute, mais ensuite dans mon discours aussi. Comment cette honte du milieu faisait que ne pas en parler, c'était une manière de protéger sa cachette, quoi, mm-hmm. de fortifier sa cachette. Et donc, ce livre, c'était la première manière d'ouvrir la possibilité de dire que cette chose, elle a le droit de se rendre publique dans toute la complexité de ces tensions contradictoires, de parfois ne se sentir pas brésilien, ne se sentir pas français, de devoir retourner chez mes parents et de retrouver la violence de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui. D'avoir aussi cet écart immense qui m'empêche même de raconter à mes parents ce que je fais, qui fait qu'ils peuvent même pas, eux, savoir ce que je suis en train de faire. Donc, cette difficulté, en fait, à être ensemble, que ces livres nomment d'une certaine manière, non seulement, évidemment, la question de l'ordre sexuel,
et de la classe sociale.
Et de la classe sociale, voilà. Mmh. De la notion du transfuge des classes et qu'est-ce que ça veut dire, moi, un fils d'un camionneur et d'une agricultrice qui ont du mal à écrire leur prénom, qui m'ont eu 12 ans après ma sœur, qui est venue 2 ans seulement après mon frère, donc je viens vraiment beaucoup plus tard dans cette attente à ce que je devienne camionneur et que je suive un peu le chemin parental, on va dire. Et qu'à un moment donné, au bout de 3-4 ans, j'étais déjà un danseur. Je dansais dans toute mon enfance queer et que je ne savais pas, en fait, que j'étais pris par des codes, par des désirs, par des sensations, par des modes d'être qui révélaient, en fait, que j'allais dérouter cette destinée. Et qui, donc, à partir de là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de violence à l'intérieur de la famille et aussi dans le village, dans l'école et tout ça. Donc, ce livre, il était vraiment très, très important. Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé. Et par conséquent, le retour dans le milieu d'où l'on vient et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre, partant de distances qui paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Une mélancolie liée à l'habitus clivé, pour reprendre ce beau et puissant concept de Bourdieu.
Dites Vladimir Cordero que ce choix de texte, en fait, il a peut-être pour point commun de produire de la subjectivation, donc ce que vous avez expliqué tout à l'heure, d'avoir des outils de connaissance de soi. Par exemple, de pouvoir lire sur une page cette idée d'un habitus clivé, de pouvoir rationaliser, théoriser quelque chose que vous avez senti confusément en vous depuis des années, ça produit quoi comme effet ? Concrètement, ça fait quoi ?
Bah, je pense que déjà, il y a la mélancolie. C'est pour ça que j'ai choisi là, parce qu'il y a cette question de toujours chercher à retrouver quelque chose de perdu, de savoir que cette chose, on ne peut plus la retrouver, que rien n'a été perdu forcément. Mais ce qu'on cherche, c'est comment faire lien, comment rallier le monde là-bas avec le monde ici. Comment échapper au fait que parfois, si je retrouve ma sœur ou mon père ou ma mère, on va avoir des habitudes tellement différentes pour pas que ça devienne un outil de domination, pour pas que j'endosse la chose à partir de laquelle je décide de partir, d'échapper. Donc c'est toujours cet état d'une hypersensibilité envers soi-même pour prendre soin à ne pas réjouer le code de la domination et à pas non plus rentrer dans les codes du privilège de quelqu'un qui maintenant vit à Paris, qui travaille à Paris et qui a des conditions pour réaliser son travail, pour mener sa vie et ne pas abîmer ma vie puisque ce n'est pas la même vie que mes parents ils ont. Et donc, des fois, combien de fois la culpabilité de juste me payer un resto ou de juste m'acheter des livres, de me dire que je vais prendre des vacances, alors que j'imagine mes parents qui vivent avec une retraite qui fait 200, 250 euros. Et cet écart très difficile. Donc, comment rester vivant et autorisé à faire des choix qui me conviennent et qui vont dans le sens de ce que moi j'ai envie de faire? Comment préserver mon désir par rapport à cette histoire?
Et le fait de pouvoir le lire vous aide à faire ça?
Bien sûr.
Ouais.
Ah, ça, c'est la chose la plus importante. Mm-hmm. D'où le rapport au livre.
Ouais.
Et depuis l'enfance.
Ouais.
C'est-à-dire la formule.
Comprendre, le formuler, le dire clairement, vous aide à le faire.
Bah, ça, c'est le noyau, on va dire presque le noyau épistémologique, on va dire le noyau de la construction de la pensée,
mm-hmm.
qui permet de situer l'émotion.
Mm-hmm.
Et du coup, d'organiser la vie, mm-hmm. organiser le courage même, donner du courage.
Deuxième choix, c'est un texte de Patrick Chamoiseau ?
Exactement. J'ai pensé plutôt à Chamoiseau parce qu'à un moment donné, Didier Ribon parle de Chamoiseau où il dit « À n'en pas douter, nous pouvons ranger l'histoire de la folie sur les rayons de nos bibliothèques. » Bon, là, il est en train de parler de Foucault, ou plutôt de nos sentimentèques. Alors, ça, c'est le mot forgé par Patrick Chamoiseau pour désigner les livres qui, je cite, « font des signes et nous aident à combattre en nous-mêmes les effets de la domination. » Et ça, c'est vrai que c'était la chose la plus incroyable quand j'ai découvert Écrire un pays dominé, qui est une découverte très récente, ça fait peut-être 2 ans maintenant. C'était justement cette invention de la sentimentèque, c'est-à-dire une récolte des bribes d'autres livres, d'autres auteurs, autrices que Chamoiseau récoltait, pour justement faire appel à cette vocalisation polyphonique, multiple, qui allait lui aider à construire le discours, qu'elle allait lui permettre aussi d'activer son processus de subjectivation.
À lui.
Mm-hmm. Et donc jongler avec la langue canonique, avec la langue à soi, avec le désir de raconter la domination, mais pour pouvoir aussi inventer une forme d'évacuation de cette domination et retrouver son émancipation. Et je voyais dans cette sentimentaire quelque chose que j'avais fait au tout début quand je faisais mon mémoire à Paris 8 en 2013, avant ma thèse, et que j'avais inventé un glossaire, ça s'appelait un glossaire non exhaustif, des références qui m'habitaient. Et donc, dans ces mémoires, j'avais l'idée, non, je mettais à la marge, comme ça, des bribes d'autres auteurices, auteur. Et c'est pour ça que la Centimathèque de...
Vous a parlé, quoi.
M'a parlé tout de suite comme une manière de rendre explicite le fait qu'on ne peut pas écrire tout seul, toute seule. On ne peut pas danser. Il y a quelque chose du fait de danser qui va être redansé. Il y a quelque chose d'écrit qui va être réécrire. Mmh. Et ces côtés très assumés, très explicites dans la forme, qui permet de... voilà, d'évoquer le commun pour pouvoir inventer soi-même.
On lit un extrait de Patrick Chamoiseau.
Alors, attendez, parce que tout à l'heure, j'avais choisi...
Écrire en pays dominé, qui est apparu dans un premier temps en 1997.
L'écrire pouvait manier ici une mise en alerte. Ce paradoxe des diversités accessibles au vouloir et leur homogénéisation possible, ce cachot dans l'ouverture, cette chute liée à l'élan. L'écrire pouvait élever ce risque en émotion. Conserver la saveur du divers demande lumière tissée dans l'ombre, partage et distance, de la mise à portée et du maintien inexplorable. La connivence pouvait initier aux altérités brusques, les distances augmenter les accords. Les glossaires pouvaient s'abandonner ou se voir détournés des poses de transparence. Les dialogues s'asphyxier sur l'impossible à dire. Les chapitres se défaire sous les rythmes et les cercles. Longer des abîmes où le récit explose. Tenir tête au vertige où les gens se mélangent. Ameuter les tirés, faire exploser le temps, construire les histoires dans les désirs imaginants de toute histoire possible. Installer l'unité dans les désordres de la structure. Et ce que j'aime, c'est ça, en fait. C'est pour arriver là, installer l'unité dans le désordre de la structure. C'est-à-dire, c'est sortir de l'idée de l'un, du sujet, du jeu, comme cette architecture structurée sur le principe d'une uniformisation ou quelque chose qui doit s'identifier, qui doit créer des marques, des signatures en permanence et qui donc vont aussi promouvoir l'idée d'une identité fluide, mouvante et pourtant féconde, quoi. Parce que basée sur l'idée de cet écart toujours que le désordre vient instaurer. Donc pour parler de jeu, j'ai besoin d'accepter le désordre. Et ce qui fait quelque part dans ce livre, c'est quand même une affaire de montage. J'ai l'impression qu'il y a du montage tout le temps, parce que c'est par bribes, c'est par fragments, c'est séparé, c'est parfois comme du cinéma. C'est comme si quand il va citer Genet, qui fait partie de sa Centimathèque, c'est comme si ça peut aider à augmenter ou à mieux regarder ce qu'il vient d'écrire, ou alors ça va faire du contraste, ça va créer un va-et-vient, un dialogue. Et c'est ça qui, pour moi, quelque part, est très révélateur du comment j'essaye de travailler en chorégraphie.
Oui, mais c'est marrant que vous finissiez par dire le mot chorégraphie, parce qu'en vous écoutant dire tout ce que vous venez de dire, Volmir Cordero, c'est-à-dire l'acceptation du chaos, du désordre, de la pluralité, pour pouvoir prononcer le jeu, je vous revoyais, je ne saurais pas dire quelle pièce c'est, mais où j'avais l'impression, dans le souvenir que ça me laisse, de quelqu'un dans une métamorphose à la seconde, tout le temps, quoi. Je ne sais plus laquelle, je ne saurais pas dire. Peut-être trottoir, oui. Parce que j'ai l'impression comme si c'était des apparitions tout le temps, toutes les 10 secondes, quelque chose de nouveau, un nouveau pan de tissu, un nouveau visage, un nouvel angle, quoi. Et que c'était que ça. C'était une sorte de chorégraphie pour dire tout ce que vous venez de dire de très théorique. Est-ce qu'il y a un chemin évident entre tout ce que vous comprenez à partir des textes et ce que finalement nous, on voit au plateau, ou c'est pas aussi évident que ça?
Alors, je suis plutôt du côté de celui qui croit que les formes qu'on établit, elles sont quand même en lien avec les événements qu'on traverse, avec les idées qu'on a envie de mettre en place. Mm-hmm. Donc, j'ai plutôt envie de dire que ces choses-là, elles se marient, elles s'organisent d'une sorte à ce qu'elles puissent vraiment être à la fois la forme vient impliquer un état, l'état vient révéler la forme, mais surtout primé par le fait que je sais où je peux commencer, je ne sais pas très bien où je peux finir. Et ça, c'est le plaisir que je peux avoir du trajet, de comment le trajet, il va à un moment donné aussi être susceptible de réorganiser le projet et faire en sorte que le projet devienne aussi ce qu'on vit dans le temps réel. Mmh. Et là, ce que je ressens dans son écriture, c'est cette vitalité, c'est cette vivacité de quelqu'un qui est en train d'écrire, qui est en train de... Ce personnage, par exemple, qu'il invente, ce vieux guerrier, qui est une forme d'incarnation de l'histoire dominante de tout l'empire colonial, surtout de la France vers les Antilles, c'est-à-dire de comment il va inventer cette entité ou cette créature pour pouvoir lui parler, pour pouvoir peut-être réorganiser le destin de la domination. Ça, c'est pour moi une chose que, dans la chorégraphie, j'essaie aussi de le faire, d'une certaine manière, d'inventer des entités où je dois passer par le mal, je dois passer par justement la chose que j'essaie de contester pour pouvoir mieux danser, pour pouvoir me libérer de quelque chose.
Vous avez parlé de ce trajet-là aussi, du monde des Antilles ou du monde caribéen, en dialogue avec un espace qui serait plus l'espace occidental. C'est aussi des mouvements que pense Édouard Glissant, entre autres choses. C'est le troisième auteur. Est-ce que ça vous va comme troisième étape ? Ouais.
Exactement.
Allez. Ouais. Ouais. Un livre trop beau quand même. On peut parler de ce graphisme et de cette couverture. Je vous laisse le faire.
Alors, la terre, le feu, l'eau et le vent. Alors, chaque mot aligné sur l'autre. Et puis avec un tiré sur chaque partie. Donc, la terre, le feu, l'eau et les vents. Une anthologie de la poésie du tout monde. Alors ça, c'est un livre volant. C'est un livre que j'ai choisi, dû à son caractère presque anachronique. J'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé dans ma vie, il est là, il n'est pas là, il revient. Et je pense que c'est tout à fait le rapport que j'ai avec la philosophie. Une espèce de vitamine, quoi. Quelque chose que des fois, je prends parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut renforcer. Je ne passe pas deux heures à lire de la poésie, mais dû justement à son exigence, quoi. Ça demande un temps, ça demande une nécessité. Et des fois, j'ai l'impression de chasser quelque chose. Quand je suis en train d'aller vers la poésie, c'est comme si je voulais vraiment avoir besoin de trouver la folie ou la réponse à un clivage dans la création, dans la vie amoureuse, dans le travail, dans l'organisation. Et donc, quand j'ai trouvé cette anthologie, encore une fois, Édouard Glissant, dans une idée justement d'une unité qui ne ferait pas totalitarisme, mais justement une unité qui va embrasser le large, qui va faire une sorte que le divers puisse continuer d'être revitalisé par l'unité, va rassembler la poésie de son monde à lui, ou d'un monde qu'il a envie de préserver, de cultiver et de rendre encore plus vivant. Donc voilà.
C'est une anthologie, il y a plusieurs textes, c'est ça ?
Il y a plusieurs textes de plusieurs auteurs, notamment évidemment Aimé Césaire avec son Soleil Serpent qui revient souvent.
C'est marrant, ça parle presque du glossaire que vous aviez inventé au moment où vous êtes en thèse ou en mémoire, Volmir Cordero. L'idée quand même que, en fait, tout ça est beaucoup mené par le pluriel ou par l'archipel, qui est un mot précieux pour Édouard Glissant, ou par le montage. Il y a foule, en fait.
Oui, par la mise en relation, en fait. C'est des mises en relation.
C'est un grand mot de Glissant.
Ouais. Voilà. Et donc, de cette poétique de la relation, c'est justement... Mais je pense que c'est très lié à la condition, à cette condition initiale de transfuge aussi, c'est-à-dire de comment construire l'unité basée dans des mises en relation, mais comment on prend du temps à comprendre que ça, c'est aussi une manière de faire le montage de sa propre vie. Et de mixer peut-être sa propre vie dans ce sens-là, ce qui pourrait vraiment aider à vivre.
Alors, vous piochez quoi chez Glissant ?
Chez Glissant, j'ai pioché déjà le Soleil Serpent d'Aimé Césaire.
On vous écoute ?
Ah oui, d'accord. Soleil Serpent, œil fascinant mon œil, et la mer pueuse d'île craquant aux doigts de rose lance flamme et mon corps intact de foudroyer. L'eau exauce les carcasses de lumière perdue dont le couloir s'en pompe. Des tourbillons de glaçons, auréoles, le cœur fumant des corbeaux, nos cœurs. C'est la voix de foudre apprivoisée tournant sur leurs gonds des lézards. Transmission d'anoli au paysage de verre cassé, c'est le fleur vampire à la relève des orchidées. Élixir du feu central, feu juste feu, mon guillet de nuit couvert d'abeilles, mon désir un hasard des tigres surpris au soufre. Mais l'éveil staneux, c'est d'or des gisements enfantins. Et mon corps dégalé mangeant, poisson mangeant, colombe sommeil, le sucre du mot Brésil au fond du marécage.
Le sucre du mot Brésil au fond du marécage. Ébé.
Ébé, le besoin de ce sucre, le besoin de toujours faire retour en restant sur place et de... aller chercher ce sucre que souvent j'associe à une forme de vitalité, à une forme de chaleur, à une forme d'aisance dans la, on va dire, dans l'humidification sociale, dans la manière de faire contact, dans la manière d'interagir, ce qui parfois ici, ça peut être un peu plus laborieux vis-à-vis des habitudes que j'ai construites ou le temps que je prends à comprendre quelles sont les tuyaux, les canaux pour pouvoir les pratiquer, ou notamment le langage. Quand je saisis pour moi, selon ma manière d'être en France, la nécessité de bien réfléchir à son mot, de poser son mot à un certain endroit, ou de comprendre que les choses vont se passer par les mots, et rien que le fait de dire « Ah, tic-tac, je prends la bière, et je te sers, et le verre, il est là. » Rien que le fait de parfois accompagner les actions avec le dire, c'est une manière très forte de comprendre comment le corps s'organise à l'intérieur et la différence que ça peut avoir avec le Brésil où parfois le langage il se dissipe sur d'autres manières d'exister. Mais comme je pense également ici, et sans vouloir faire de généralité et tout ça, mais c'est juste pour dire que quand je pense à mes livres, du fait de faire cet exercice en France, il y a forcément mon rapport au langage, mon rapport dans ma manière d'entrer dans le langage en France.
Autre chose dans cette anthologie d'Edouard Glissant,
peut-être juste un petit bout de Jorge Luis Borges, là où il parle justement de la poésie, et là où il dit, je pense que ça c'est intéressant pour contester un petit peu l'exercice qu'on fait là, mais il dit peu importe la bibliographie, Shakespeare, après tout, ignorait la bibliographie shakespearienne. Johnson ne pouvait prévoir les livres que l'on écrirait sur lui. Pourquoi n'étudiez-vous pas directement les textes? Si ceux-ci vous plaisent, très bien. Et s'ils ne vous plaisent pas, laissez-les, car l'idée de la lecture obligatoire est une idée absurde. Autant parler de bonheur obligatoire. Je crois que la poésie est quelque chose qu'on sent, et si vous ne sentez pas la poésie, la beauté d'un texte, si un récit ne vous donne pas l'envie de savoir ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'auteur n'a pas écrit pour vous. Laissez-le de côté, car la littérature est assez riche pour vous offrir un auteur digne de votre attention, ou un digne de votre attention aujourd'hui et qui vous lirez demain. Voilà, là après il déraille un peu. Mais c'est surtout le...
L'immédiateté, l'évidence.
Ouais, le fait qu'on est habitué à devoir lire certaines choses et de juste échapper à cette obligation. Et c'est aussi quelque chose que Patrick Chamoiseau, il parle énormément du plaisir de la lecture comme le principe qui organise le plaisir de l'écriture. Et qui pour écrire, il faut beaucoup lire. Et je pense que ça dit encore une fois de ce besoin d'aller chercher ce qui va être moteur, ce qui va vraiment motiver, une manière d'enchanter soi-même à l'endroit de cette évocation des autres. Ou comment créer des altérités fortes capables de venir susciter une compréhension de soi.
Joyeuse.
Désirable.
Le quatrième livre que vous avez choisi de lire pour nous, Volmir Cordero, c'est un livre de Nastasia Martin, Croire aux fauves. Jusqu'à maintenant, tous ces livres ont en commun Glissant, Chamoiseau, Héribon et Nastasia Martin, pour ce que je m'en souviens aussi.
Oui.
C'est quand même des gens qui sont plutôt du côté de la pensée, et qui ont tous une langue très poétique. Mmh. Elle est anthropologue, elle a fait une thèse d'anthropologie, mais il y a beaucoup de force poétique dans ce texte-là.
C'est vrai qu'il y a de ça, c'est vrai qu'il y a une forme de connexion, c'est pour ça que j'ai parlé de cette activité de construction d'une subjectivité, de comment se connaître, comment se connaître par le biais de quelqu'un d'autre. Comment agencer sa propre histoire pour générer un récit qui ne va pas tomber dans l'uniformité, dans l'un qui cloisonne, qui essentialise. Et là, encore une fois, ça va se passer par cette rencontre, cet événement, un événement dans le sens vraiment de quelque chose de surprenant, d'inattendu, de... inanticipable, de rencontrer un ours, quoi, et de...
C'est ça que raconte, entre autres, beaucoup d'autres choses, le livre de Nastasia Martin. Ouais. Donc, il s'appelle « Croire aux fauves ». En effet, sur son terrain d'étude, elle rencontre un ours, elle se fait mordre.
Ouais. Et là, avec Nastassia, c'est le moment où je me ressens à nouveau dans la trouille, en fait, de parler de ce livre. Parce que je pense au tout départ, je n'ai pas forcément parlé de ça. Mais c'est vrai que je touche à des endroits très précis dans ce qu'ils ont fait dans le monde. Ouais. Ces gens-là, et puis dans la préciosité de ce que j'ai pu ressentir avec ces objets, ces livres, ces êtres. Et en même temps, la question de comment rendre dignes, en fait, leurs effets sur moi, les affects qui ont généré des effets sur moi, sans trahir quoi que ce soit, parce qu'évidemment, je ne suis
Mais
pas là pour...
Mais les textes ou ce que ça vous a fait?
Ben, trahir sur tous les textes, trahir, c'est-à-dire là, par exemple, je pense à la rencontre entre Nastassia et l'ours, où la mène en combat, c'est une morsure, c'est une lutte, c'est un... Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Rien que le fait de nommer cette chose-là, déjà, ça me pose énormément de questions sur l'emploi du mot et le respect à avoir, tout en sachant que c'est de... Les livres sont faits justement pour qu'on puisse arpenter à nouveau ce bonheur obligatoire de qui est notre rencontre avec le livre et sortir même de l'obligation de devoir les comprendre d'une certaine manière ou d'une autre.
Ou d'en parler de manière conforme. Ou, voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une attention aux termes très importante, notamment sur la rencontre avec l'ours, mais je crois qu'elle utilise le mot rencontre. Enfin, elle utilise autant le mot rencontre que le mot attaque.
Le mot attaque, ouais. Oui. Parce que oui, ça passe par c'est justement cette... ce mosaïque des sensations à l'intérieur, de la fois à vouloir tuer l'ours, de voir le rencontrer à nouveau, de cette chose de croire au fauve dans le sens de croire à la transversalité entre les choses. Même quand elle est à l'hôpital et qu'elle décrit la couleur de rideaux, les personnes qui arrivaient. C'est-à-dire toutes les choses qui sont là et qui apparemment ne sont pas susceptibles de générer de rencontres, de nous affecter d'une certaine manière, elles peuvent le faire. Et ça me fait de frissons. Et je pense que c'est la chose la plus importante de ces textes pour moi, c'est de dire, en fait, on est tout le temps...
Au travail, presque. Au travail. Au bon sens du terme, au travail de vivre, quoi. Exactement. Au métier de vivre.
Ouais. Au métier de vivre, ouais. À disposition et dans la disponibilité. Et c'est peut-être ça l'aspect le plus sensible de l'existence, c'est-à-dire les choses vont nous traverser. On va choisir certaines choses pour qu'elles nous traversent, d'autres on ne va pas choisir. Et il y a du travail là-dedans. Et c'est drôle parce que je tombe justement sur cette partie où elle dit « Je voudrais lui expliquer que je collecte depuis des années des récits sur les présences multiples qui peuvent habiter un même corps pour subvertir ce concept d'identité univoque, uniforme, unidimensionnelle. Je voudrais aussi lui dire tout le mal que cela peut faire d'émettre un tel verdict lorsque, précisément, la personne qui se trouve en face de vous a perdu ce qui, tant bien que mal, reflétait une forme d'unicité. » Et essaie de se recomposer avec les éléments désormais altères qu'elle porte sur le visage.
Évoquant sa blessure, j'imagine.
Voilà, sa blessure, le fait qu'il y avait des bribes de l'ours en elle, que l'ours est parti avec des parties d'elle, et qu'il y a eu donc cette mise en circulation.
Entre les espèces, quoi.
Entre les espèces, bien sûr. Évidemment. Donc ça, on pourrait l'élargir jusqu'à ce moment où on est en train d'organiser le rapport à la nature, à l'humanité, toute cette notion même de ressource, de prendre la nature par une ressource et penser que c'est l'humanité qui s'en sert et qu'il n'y a pas de rebond et que la nature ne va pas rebondir, justement, ne va pas créer des manières d'exprimer sa manière aussi de recevoir ce que nous on fait à elle. Donc cette réciprocité, cette chaîne en fait qui permet pour moi de comprendre le vivant. C'est-à-dire, dans le geste que l'ours part avec elle, elle reste avec l'ours, ça pour moi, c'est l'endroit où le vivant s'installe. Et que, donc, elle fait une source aussi de compréhension du fait qu'on ne peut pas être unique, on ne peut pas être univoque. Et encore une fois, peut-être dans tous ces livres...
Ça résonne fort, c'est ça qui résonne fort.
Ça résonne fort, ce désir de peut-être mettre en place plus que de verdict sur la question des identités, mais plutôt le travail d'entamer des processus d'identification avec certaines choses qui permettent d'actualiser comment on vit, à partir de quels moyens, comment on interagit, comment on organise nos milieux pour qu'on soit dans des bonheurs obligatoires, pour qu'on soit dans des rencontres inattendues et qui peuvent faire mal pendant un moment. Évidemment, cette notion aussi de la rencontre avec un ours, c'est-à-dire ce fait soudain, c'est-à-dire des choses qui nous arrivent de manière soudaine, mais qui durent. c'est-à-dire dans sa durée, c'est éphémère, comme une pièce de danse quand on la crée et qu'on la rejoue plus, elle est aussi présente quelque part. Donc c'est des faits soudains qui durent, qui traînent et qui permettent justement de comprendre comment l'identité ne peut pas être associée à ce qu'il y a là, à ce qu'on tient, à ce qu'on a choisi, à ce que... voilà, ça c'est les livres qui sont exposés, mais à tous les autres qui ont été lus par bribes, par bouts, qui ne sont pas rentrés, on va dire, dans la frontière de mon appartement, quoi. Qui n'ont pas passé
mais
ou...
Qui vibrent.
Mais qui vibrent dans d'autres espaces.
Le dernier choix, c'est un texte en portugais ?
C'est ça. C'est un texte en portugais ou en brésilien. Ça s'appelle O Corpo Encantado das Ruas, Le Corps Enchanté des Rues, de Luiz Antônio Simas. Et ce livre, pareil, je l'ai découvert en 2023. Et comme j'ai créé une pièce qui s'appelle Rue en 2015, quand j'ai vu ces livres, j'étais absolument curieux. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment Luiz Antônio Simas est un grand historien de l'art, de la fête, de la rue, de la samba, du candomblé, qui fait lui aussi un mosaïque des différentes manières d'aborder la vie à Rio ou l'histoire, on va dire, une certaine histoire marginalisée de la vie de peuple qui pratique et qui mélange la musique avec la danse, avec la religion. Et qui donc fait dans ces livres, pour moi, presque un traité, un manifeste dans la tentative de restaurer la force joyeuse, ludique, religieuse de la rue, d'une manière à la faire dévier la tentative colonialiste, justement, ou néolibérale, de tout gentrifier ou tout dominer, ou comme il appelle le dieu voiture, par exemple, le Deus car, ou toutes ces choses qui passent par la rue et qui essaient de la faire disparaître dans sa forme la plus vivante. C'est pour ça qu'il dit « réenchanter la ville, subvertir le territoire, un terreiro ». Terreiro, c'est l'endroit où on pratique le candomblé ou l'umbanda. Entendre la ville comme lieu de rencontre, manger par les bords et jongler avec les petits problèmes. Là, je traduis, donc c'est un peu difficile.
Vous voulez lire en brésilien une fois, peut-être ?
Oui, je peux.
Un petit passage.
Reencantar a cidade, subverter o território em terreiro, entender a cidade como lugar de encontro, comer pelas beiradas, driblando os perrengues, malandreando entre o horror e o gozo, é seguir vivendo e sobrevivendo para fazer o gol na partida que não termina, num lance rápido e certeiro do contra-ataque que nos resta para salvar a rua.
Alors, si on essaye,
reenchanter la ville, subvertir le territoire en terreiro. Entendre la ville comme lieu de rencontre, manger par les bords, jongler avec les petits problèmes, d'être un peu malin entre l'horreur et la jouissance. Ça veut dire suivre la vie et survivre pour faire le but du match qui n'en finit jamais. Dans un lance rapide et droit du contre-attaque qu'il nous reste à faire pour pouvoir sauver la rue.
C'est ça qui vient.
Alors c'était pas exactement la partie que j'avais choisie.
C'était la page 110.
C'est ça, 110. Merci. Justement, c'est un moment où il est en train de parler du carnaval. Et il parle justement de ce corps en dispute. Il dit que la rue, c'est comme des archives, des vraies bibliothèques justement de l'histoire. C'est là où l'histoire va conjuguer tout ce qui est censé n'est pas se mettre ensemble. Et donc, à un moment donné, il dit le carnaval est dangereux. Et le corps carnavalisé ou déguisé ou révélé ou transpiré, ou le corps syncopé, le corps le seigneur de soi-même, c'est celui justement qui échappe, celui qui monte dans le talon de la passiste, celle qui fait de la samba dans une école de samba, ou alors le confinement de l'existence comme projet qui essaye d'enlever l'enchantement ou de mettre seulement dans l'attente de la mort. Donc le carnaval serait pour lui le duel entre le corps et la mort. Pour lui, le carnaval est un intensificateur de tension. Mmh. Ce que j'ai adoré, parce que justement, il est vraiment celui qui dit cette phrase, on ne fait pas la fête parce qu'on est content, on fait la fête parce que ça va mal, parce que les choses ne vont pas bien, parce que la vie, elle est dure. Et je trouve que replonger le carnaval dans cette tension contradictoire, des énergies disparates, c'est pour moi l'endroit où j'essaie de nourrir mon travail. ça me parle immédiatement, justement, et encore une fois, de manière de sortir d'une forme de compréhension des choses, comme si elles étaient toutes données d'avance, alors que non, justement, le carnaval, on peut faire une photo et ça va être très festif, très drôle, très déguisé, très pailleté. Mais à l'intérieur, ce qui dit d'ailleurs Marie-Josée Mondzin dans un livre que j'adore, je pense que l'image peut-elle tuer, elle dit il n'y a pas de carnaval sans meurtre. Et je pense que cette tension, c'est pour moi, cette phrase aussi, c'est très initiateur de mes projets chorégraphiques. Et je pense que quand on dit qu'il n'y a pas de carnaval sans meurtre, c'est parce qu'il y a mise en relation à nouveau des choses qu'on essaye de nous faire comprendre qu'il ne faut pas les associer.
Alors que si.
Alors qu'il faut.
Merci beaucoup.
Merci.
D'avoir ouvert Merci, votre bibliothèque, Vladimir Cordero. On fait une minute sans parler ? This is a special place, but how many days do I really feel? I think I'm special too, but how many days do I really feel? Love when the train comes to Boston.
Ouais.
J'adore cet endroit, franchement.
C'est bien ici, c'est pour ça aussi. Je me suis dit, bon, il est tellement particulier.
C'est marrant comme endroit. Et donc, dans ce jardin, eh ben, c'est Alexandre Martin qui prend le son. À la réalisation de cet épisode, c'est Vivien Demeyer. Et au mixage, Marie-Claire Oumabadi. Pour retrouver tous les titres des livres évoqués par Vladimir Cordero, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi en suivant cette page que vous pourrez écouter tous les autres portraits de bibliothèque. J'adresse un grand merci bien sûr à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. C'est un chat ou un bébé ?
Les deux.
Les deux, hein. Allez, c'est parti! À bientôt, merci beaucoup!
Au revoir.